Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 36e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis matin à 9h avec notre sélection de l'actu. Et quand je dis notre, c'est moi et mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Bonjour Pascal.
Est-ce que ça va bien cette semaine?
Écoute, ça va super bien. Et je suis hyper content qu'on ait pris le temps de faire ce podcast. Voilà,
c'est
parfaitement.
Vrai. Ouais, on a beau être sous l'eau, on a quand même décidé finalement de le faire malgré tout. On a beaucoup de choses à vous dire d'ailleurs cette semaine. On va commencer tout de suite par une grosse actu gaming avec Iconoclast.
Oui, Iconoclast. Alors c'est un jeu auquel je n'ai pas accordé encore tout le temps qu'il mérite, parce que rapport au fait qu'on est sous l'eau. D'ailleurs, on s'excuse au passage du manque d'activité sur le site en ce moment, mais ouais. C'est lié au fait qu'on a tous les deux des gros projets à rendre là, maintenant, tout de suite, hier, dans mon cas d'ailleurs. Et donc, ça sera la semaine prochaine, parce que vous savez, les dates qu'on écrit, c'est assez...
C'est bizarre. Flexible.
C'est flexible, c'est des choses... voilà. Les gens vous attendent avec des gros guns après.
C'est
mais...
ça.
Mais c'est flexible, on va dire ça comme ça. Du coup, Iconoclast, j'ai commencé à y jouer, et surtout... J'ai lu avec grand intérêt le très bon test qui est sur Gamekult, chez nos confrères de Gamekult, que je vous link d'ailleurs dans le petit texte qui accompagne notre podcast comme toutes les semaines. Et donc on découvre que c'est un projet assez incroyable et moi j'étais absolument pas au courant, donc je l'ai lu avec d'autant plus intérêt ce texte.
Bah, je connais pas du tout non plus.
En fait c'est un projet d'un mec tout seul dans son coin, donc j'adore ce genre d'histoire de mec un peu taré qui s'appelle Joachim Konjac Sandberg, et donc son pseudo Konjac est assez connu dans le milieu du jeu indé, et le type bosse sur ce truc depuis 2009.
Ah ouais.
Alors on est en 2018, je vous le rappelle. 2009, ce n'était pas avant-hier. Ça fait un moment. Et le mec, c'est un passionné de, je vais dire Metroidvania, mais c'est un peu plus que ça. Mais du coup, c'est un mélange de Metroid Fusion, Metal Slug, Monster World 4, des choses comme ça.
D'accord.
Vous retrouverez ses références dans le texte, puisque c'est là que je viens les piquer comme un gros plagieur. Et du coup, le gars livre un produit qui est assez surprenant au départ, puisque on est dans la plateforme avec des tas de mécaniques de gameplay hyper bien pensées. On sent vraiment le tailleur de pixels qui bosse avec amour et qui prépare toutes ces petites phases de jeu, tous ces niveaux avec vraiment c'est un boulot de ma boule. Hein.
Ouais. Bah, on se souvient d'Aurélien Regard qui avait fait à peu près le même taf sur Pénélope là, où il avait bossé tout seul et ça m'impressionne quoi. Enfin,
on est vraiment les mecs qui sont capables de faire ces trucs là tout seul. De toute façon, en plus sur la longueur comme ça, c'est de toute façon des aliens pour moi. Hein. On est d'accord, mais le résultat est à la hauteur des attentes du public en fait, dans la mesure, enfin même si le public comme moi il l'attendait pas, s'il n'était pas au courant, mais quand ça sort tu réalises que le mec a fait ça tout seul dans son coin pendant des années et tu fais genre ah mais en plus c'est bien, il est pas parti dans une direction
il a visé juste quoi
qui l'intéresse que lui, si tu veux. Il y a des jeux comme ça qui ont un petit peu déçu, même si ça reste des succès extraordinaires. Je pense à Rez par exemple, tu vois. C'est des trucs qui étaient très particuliers et tu te dis bon ok, mais il y a quand même des mécaniques de gameplay qui fonctionnent moyennement, même si elles sont novatrices, intéressantes, etc. Et là non, ça fonctionne tout le temps, et en plus il y a une dimension de storytelling où vraiment l'histoire qui se déroule pendant le jeu, qui est quand même un truc d'action, plateforme, etc. C'est pas évident de faire de la construction de personnages dans ce type de jeu, tu vois. Et ben là, ça fonctionne. En tout cas, c'est ce que nous dit Boulapoire. Moi, j'ai pas encore assez avancé pour m'en rendre compte parce que juste la mise en place m'intéresse et j'ai envie de découvrir cet univers qui a l'air un peu barré. Mais le fait est que le produit est complètement surprenant parce que c'est complètement le genre de truc que tu ne verras jamais chez un gros éditeur. Donc là, ça sort sur PlayStation 4 et PC. Profitez-en parce que des jeux comme ça, ça sort pas toutes les semaines.
C'est clair.
Donc allez-y, ça coûte 20 balles en plus, donc c'est absolument pas cher. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une traduction française. En revanche, elle est pas parfaite. Si vous êtes pas trop nul en anglais, je vous conseille vraiment d'y jouer en anglais. Moi, rien que sur le début, j'ai switché très vite. Mais après, moi, je suis assez hermétique aux traductions, donc je me prends pas la tête. Je joue généralement en anglais directement. Voilà, vous testez et puis vous nous direz comment vous le sentez.
Iconoclast, donc, qui est un autre titre dont vous voulez nous parler, c'est Legend of Princess.
Et oui, parce qu'en fait, toujours chez Gamekult, ils en ont profité pour parler d'un jeu gratuit.
Mais t'as tout pillé chez Gamekult, en fait.
Mais grave, parce qu'en fait, on apprend des choses sur cet excellent site, bravo les gars. Et en plus, ils parlent d'un jeu gratuit. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le télécharger.
C'est vrai.
Alors, Legend of Princess, c'est un jeu à la Zelda, fait par le mec qui vient de nous faire Iconoclast, en fait.
D'accord, il faisait pas que ça, en plus.
Bah, en fait, il a plein de jeux sur son site, dont des trucs gratuits, et tu sens que le mec est, voilà, il est un peu productif, quand même. Et, qu'est-ce que c'est que Legend of Princess? C'est, déjà, le titre est Legend of Princess, ça me paraît, c'est assez rigolo, mais bon, bref. C'est, en fait, une relecture de Zelda.
D'accord.
Avec, une version side-scrolling ultra musclée. Donc je le répète, c'est gratuit. Il y aura un lien sur cette petite news pour aller le télécharger. Vous allez voir, là encore, on voit que le mec est un gros pro de ce qu'on appelle la gameplay loop. Il est vraiment très malin pour faire des armes intéressantes, pour faire en sorte que le truc soit équilibré tout le temps, quel que soit le combo d'armes que vous utilisez. Mmh. Et bah, c'est un truc qui est hyper intéressant, même si ça date de 2009. Donc là, pour le coup, c'est à mon avis ce qu'il avait fait avant de s'embarquer dans Iconoclast. Après, ça. Je pense que le mec n'a plus, il a mangé de la terre. Je ne sais pas comment les gens vivent dans ces cas-là, hein. Mais c'est impressionnant. La réalisation est vraiment bluffante pour un truc gratos. Et comme le disent certains mecs dans les commentaires, s'ils vendaient ça 5 balles sur Switch, je pense que le mec est millionnaire direct. Donc fais-toi plaisir, bonhomme. Mais en tout cas, c'est à découvrir. Ça vous fait deux petits jeux à faire et qui vous changeront d'un autre truc dont on vous parle tout le temps, qui est mon ami Faskill.
Ouais, et puis UBG, j'étais justement en train de me dire qu'on devrait peut-être carrément lui faire un jingle pour lui, en fait.
PUBG.
La minute PUBG de la semaine. On va parler d'un nouveau patch.
Ouais, alors le nouveau patch, il est tout con, ça va aller très vite, mais c'est intéressant d'en parler, c'est que ils se sont rendu compte que les débuts de game étaient très très compliqués pour pas mal de gens au moment de la connexion sur les serveurs, puisque la grande idée de connecter tout le monde sur la même zone de la map n'était peut-être pas forcément extraordinairement intelligente. Donc du coup, ça, ça va changer. Hop, on va mettre tout le monde dans des coins séparés sur la carte, ce qui empêchera en plus tout le monde de se regrouper pour faire des conneries. Bon, ça, ça va nous manquer un petit peu, hein, parce que ça permettait de meubler en attendant de partir se flinguer. Et la deuxième grosse nouveauté, c'est qu'il n'y aura plus d'armes. Ils virent les armes parce que, encore une fois, ça n'était qu'un stress supplémentaire au niveau du départ du jeu. Et ils se sont rendu compte que c'était complètement stupide. Donc, pour tester ces armes, ça sera dans le jeu maintenant, hein, les gars. Désolé. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que la guerre contre les cheaters continue. Donc là, il y a eu une grosse charrette. Je crois qu'ils en ont banni 120 000 d'un coup. Genre, salut. Et la deuxième petite astuce, c'est de vous conseiller de jouer en FPP, c'est-à-dire à la première personne, puisque tout le monde s'est un peu rendu compte que c'était là où il y avait le moins de cheaters qui préfèrent visiblement jouer à la troisième personne.
D'accord.
Et moi, en tout cas, là, ça fait une dizaine de jours, même si je joue beaucoup moins depuis 10 jours, rapport au fait qu'on est à la bourre sur des projets professionnels, beaucoup moins drôle que de faire des podcasts et d'écrire sur Geekzone, je vous le confirme, mais il faut bien payer les factures.
C'est ça.
Et je vous confirme que en FPP, j'en ai pas vu un seul déjà, et même à la troisième personne, j'ai pas vu vraiment un cheater depuis une dizaine de jours, donc c'est plutôt une bonne nouvelle avec des vraies fins de partie et pas des mecs qui te snipent de l'autre bout de la map sans que tu comprennes comment. Donc ça, c'est cool. Et ils ont passé aussi dans la série, les chiffres de PUBG sont débiles et ça continue. Ils ont passé les 4 millions de joueurs inscrits sur la version Xbox One. Je pense que Microsoft est assez content d'avoir sorti le chéquier pour une fois.
Et on va parler d'un petit jeu iOS dont tu nous as fait un petit papier cette semaine.
Ouais, un vieux truc, encore une fois, mais c'est juste pour vous dire d'aller lire et d'aller regarder la vidéo de Trap Adventure 2 sur Geekzone, parce que ce truc est absolument hilarant. C'est un jeu de 2016, donc c'est absolument pas nouveau, mais qui refait surface actuellement, comme ça arrive parfois avec Internet. C'est parti d'une vidéo balancée sur Twitter où le mec dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu horrible ?» Parce que maintenant, on peut enregistrer donc son écran directement dans iOS, et du coup, le mec a fait une vidéo du truc genre incrédule en se disant mais ce jeu, mais pourquoi, mais quelle est l'espèce d'énergumène qui a inventé un truc aussi sadique. Donc c'est un japonais, je ne vous en dis pas plus, allez lire le texte de Trap Adventure 2 et surtout regardez la vidéo de Video Game Donkey, qui est un youtubeur américain spécialisé dans les trucs très très comiques autour du jeu vidéo. Franchement, c'est un de mes préférés, il fait des millions de vues à chaque fois, vous allez comprendre pourquoi. Et sa conclusion sur la vidéo, je ne peux être que d'accord avec lui, c'est-à-dire que vous pouvez dépenser 1 euro, hein, mais comme ça, c'est juste pour voir la gueule des gens qui vous feraient essayer le jeu. Franchement, ça peut être rentable, mais vous, de votre côté, je vous conseille de pas faire ça, sinon un iPhone 10 dans le mur, ça va pas vous faire rire, hein, mais c'est ce qui risque de se passer.
Et on va continuer à parler de jeux auxquels on n'a pas le temps de jouer.
Ouais, exactement. Donc cette semaine sont sortis Dragon Ball Z, le jeu de combat.
Ouais, j'en ai pu passer un peu hier sur IGN, j'avais la vidéo qui tournait en arrière-plan. Hein.
Ah, c'est un truc de ouf. Donc en fait, je voulais juste...
Hein? C'est joli en tout cas.
Ah bah oui, évidemment que c'est le jeu que tout fan de Dragon Ball espérais depuis des années, tout bêtement. Moi qui suis déjà assez âgé, n'est-ce pas, qui ai grandi avec cette licence, je trouve que le truc est juste incroyable. C'est nos amis de Namco qui font ce titre. C'est du jeu de combat ultra nerveux avec des combos de fou, mais ils ont pensé aux mecs qui n'ont pas le temps d'apprendre tous les combos de la Terre. Donc normalement, tu peux t'amuser sans y passer toute ta life, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vous conseille de regarder les tests qui sont un peu dispo partout sur le net. C'est pour moi le jeu de combat de 2018 et certainement après. Je pense que les mecs qui font Street Fighter ne sont pas super ravis. Alors c'est pas exactement le même style de jeu de baston, hein, mais c'est impressionnant. Le titre exact, c'est Dragon Ball FighterZ, pour info, hein, qu'on parle bien du même. Et je pense que si vous avez vraiment envie de balancer des grosses mandales à vos potes, c'est le truc à prendre en ce moment. Vous regarderez la réalisation, c'est vraiment un dessin animé. Ouais. On n'a pas vu ça, je crois jamais en fait à ce niveau-là. C'est incroyable et
c'est super fluide. Les transitions entre les espèces de scènes de cinématiques et de phases de gameplay sont assez ouf en fait.
J'ai jamais vu ça. Il y a des trucs qui avaient été faits avec Arc System autour de ça, et dans vraiment cet esprit dessin animé, et du coup c'est les mêmes systèmes qui sont repris chez eux. Donc on retrouve ce feeling évidemment, mais c'est ultra bien réalisé. Tous mes potes fans de jeux de baston sont au taquet, sont en train de poncer leur joystick en se disant comment je m'entraîne, à quelle heure je mange, etc. J'en connais qui sont au Japon, qui sont en train de se dire qu'ils vont acheter un joystick à Akihabara pour pouvoir jouer sur leur portable. les mecs, vous êtes en vacances, détendez-vous, allez manger des ramen. Franchement, non, c'est pour vous dire qu'à quel point le truc risque de cartonner. Et l'autre jeu, alors là, pour le coup, si vous le lancez et que vous aimez, adieu la vie. C'est Monster Hunter World qui sort chez Capcom.
Ouais.
Ça, c'est de la grosse licence qui débarque enfin sur une vraie console, à savoir la PlayStation 4, qui est un truc, c'est une institution, hein, donc on a son chasseur qui va aller exploser des bestioles de plus en plus grosses et de plus en plus intelligentes. Mais les tests sont assez dithyrambiques, donc tout le monde dit que c'est ultra bien réussi. Moi, j'avais vraiment essayé de, parce qu'il y a un truc qui me fait de l'œil depuis des années, mais sur 3DS, il est hors de question que j'y joue. J'ai pas envie de me ruiner les yeux. Enfin, ça m'intéressait vraiment pas dans ce format-là. Là, sur une 65 pouces, on commence à discuter. Mais très honnêtement, la démo m'avait pas convaincu. Donc, j'attends vraiment de m'y plonger avec une version dev. En tout cas, vous sachez que c'est la grosse sortie du style actuellement. Donc, allez voir ça. Si vous êtes intéressé par les jeux au long cours, parce que c'est des jeux en plus en multi avec ses potes, vous pouvez vraiment y passer votre vie.
Et on va terminer cette section gaming avec RoboCash.
Oui, qu'est-ce que c'est que RoboCash?
Je ne sais pas.
Et j'ai même eu un doute, je voulais en parler sur Geekzone et rapport au fait qu'on avait beaucoup de travail, je n'ai pas eu le temps. C'est une nouvelle tentative d'aller concurrencer nos amis de chez Steam, figure-toi.
Ah, il est temps.
Alors, évidemment, quand je dis Steam, je dis tout le monde, hein, Steam, Guild of Games, tout le monde est visé par ce nouveau produit. À la tête de RoboCash, ou en tout cas de l'idée pour ce truc-là, on trouve une vieille légende du jeu vidéo, puisque c'est Brian Fargo, le patron de chez InXile Entertainment, qui en fait s'est dit, avec tout le buzz autour des blockchains et compagnie, on doit bien pouvoir faire un truc pour le jeu vidéo dans l'histoire. Et bingo, alors ils y vont. Ils vont nous créer encore une monnaie virtuelle qui va s'appeler je ne sais même plus comment. Je vais vous linker le site web qui explique plein de choses assez compliquées d'ailleurs sur le concept, parce qu'il y a un énorme, ce qu'on appelle un white paper, qui explique tout le concept du produit qui n'existe pas, hein. Pour l'instant c'est un projet, ils sont en train de bosser dessus. Sur leur site web, donc vous trouverez plein d'informations. Les informations les plus intéressantes pour les gens qui font des jeux vidéo, c'est que cette fois, quand vous allez dépenser de l'argent pour acheter un titre, 95% de cette somme va directement aller à l'éditeur du jeu, ou développeur s'il est en direct, whatever. Ça veut dire que RoboCash ne garde que 5%. C'est 25% de moins que les plateformes concurrentes, pratiquement tout le monde est à 30%.
Ouais, c'est le standard Maman Musique en général.
Ça. Voilà, et quand je vous dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Hein. Ça va de Steam, Good Old Games, les mecs de l'App Store, le Google Store, etc., etc. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi tout le monde a décidé que 30% c'était le sweet spot. C'est assez intéressant de voir ça. Mais tout le monde s'est un peu aligné sur ce truc-là et eux, bim, ils en enlèvent 25%, ils en gardent que 5 parce que apparemment, avec leur technologie, ils se disent que ils peuvent fonctionner carrément de manière autonome et qu'ils n'ont pas besoin de surveiller plein de trucs et que ça leur coûtera moins cher.
D'accord.
Ok, très bien. Mais là où ça devient hyper intéressant, c'est qu'avec ce système de blockchain qui fait que vous êtes identifié comme le propriétaire du jeu, etc., il sera possible de revendre ces titres.
Ah.
Et là, ça devient encore plus intéressant, parce que qui dit revente de titres, dit éditeurs qui vont directement monter les barricades et commencer à foutre le feu partout.
Ouais.
Et là, en fait, pas du tout, puisque les mecs se sont dit, attendez, détendez-vous. En fait, quand un joueur revend son jeu, eh ben, il ne garde que 25% de la thune demandée. Alors là, vous dites, bah, c'est un peu une arnaque. Oui, mais du coup, l'éditeur en reçoit 70%. Du coup, l'éditeur, il est content et il autorise la revente de jeux, ce qui ne serait pas le cas dans... Bah, sinon, en fait, tout bêtement. Mais en revanche, en plus, cet argent que vous allez récupérer, ça sera donc en iron, c'est la monnaie que dont je viens de retrouver le nom à l'instant, et que vous allez avoir directement sur votre petit porte-monnaie virtuel pour acheter d'autres jeux toujours sur RoboCash.
D'accord.
Donc, c'est un principe qui... plutôt intéressant, je vous conseille d'aller lire le white paper, on verra s'ils arrivent à faire ce qu'ils ont décidé de faire. En tout cas, le logo me fait marrer. C'est un petit robot, évidemment, avec un nom pareil. Et puis, on verra si ça prend en 2018, et si en tout cas, ils tenaient hors délai, etc., etc. Le projet est intéressant. Je sais ce que vous allez me dire, ça fait une plateforme de plus. C'est pas faux, mais allez, il y a moyen, donc on verra bien ce que ça donne. Steam, moi je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent ah, il faut de la concurrence et tout. Moi, Steam me va bien, mais ce que j'aimerais déjà, c'est qu'ils finissent leur redesign un jour.
Ouais,
parce que quand je vois l'interface de Good Old Games et quand je vois celle de Steam, je me dis que le petit nouveau est quand même bien plus agréable à utiliser que l'ancien. Donc,
Steam a pas bougé depuis deux années, surtout.
Ah, je te confirme, la version Mac respecte par exemple aucun standard graphique de macOS, qui est toujours assez drôle à voir. Et puis sur Windows, ça commence à faire tâche aussi.
On va passer du côté des apps et je voulais qu'on parle de Millar. Alors Millar, c'est pas nouveau. On vous en parle parce que notre ami Archeon nous a pondu un gros tuto lundi pour installer et configurer tout ça aux petits oignons.
Merci Archeon.
Voilà, merci Archeon déjà. C'est quoi Millar? Eh ben Millar, c'est après Radar, qui était le sonar des films, c'est le sonar des comics. Sonar, c'est cet outil qui vous permet donc de télécharger automatiquement vos séries télé préférées, etc., de les classer, de les ranger. Il y a eu donc l'équivalent pour les films qui est encore en alpha qui s'appelle Radar, et une autre alpha, c'est Millar, donc pour les comics. C'est un outil de téléchargement qui va vous permettre donc de récupérer automatiquement les comics de votre choix, les arcs de votre choix au format CBZ ou CBR, donc les deux formats les plus standards pour la lecture de comics. Il est fonctionnel même s'il est en alpha, et voilà, je voulais vous en parler parce que comme Archeon nous a pondu un gros dossier sur le sujet, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'en mettre une petite couche. Donc si vous êtes fan de comics et que vous voulez automatiser un petit peu la manière de les récupérer, même si on sait que c'est pas très légal tout ça, vous pouvez utiliser Millar. Donc l'installation est détaillée avec tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne sur Windows et Linux. Donc je vous propose d'aller lire le petit tuto sur Geekzone qui est sorti lundi, et puis on va parler d'une autre app, Screeny 2.0 sur Mac, j'imagine.
Ouais, je tiens à réagir sur Millar, c'est que ça tombe la semaine où j'ai pas le temps, je vous rappelle. et j'étais extrêmement frustré, mais je me vengerai. Screeny 2.0, c'est une petite app dont je voulais parler sur Geekzone rapidement. C'est tout bêtement un truc qui, pour les têtes en l'air, qui n'ont pas le temps de trier leurs photos sur iOS, qui laisse l'option live. Les live photos, tu vois ce que c'est sur iOS ou pas du tout?
Pas du tout.
C'est les photos avec des petits bouts de vidéo, en fait. Donc, tu regardes ta photo. Si tu appuies sur l'écran, tu as ce qui s'est passé avant et après, quelques secondes, en fait.
D'accord.
Donc, c'est un fichier vidéo qui vient se mettre en plus de ça. La problématique, c'est qu'il y a pas mal de gens qui vont le laisser activer alors qu'ils ne veulent pas du tout cette fonction, et qui du coup se retrouvent avec des téléphones saturés et qui là se disent « Eh ben, je vais trier !» Sauf que c'est évidemment super chiant, faut aller dans les vidéos, faut aller dans tes photos, faut regarder lesquelles sont des live photos, faut les sélectionner, les effacer, etc. Ouais. Et généralement, les gens n'ont pas le temps de faire ce genre de truc hyper passionnant. Donc, c'est une app qui te permet de virer directement tes screenshots, tes live photos, etc. Puis avec des paramètres, tout bêtement, genre toutes les live photos qui ont plus de 6 mois, 3 semaines, whatever, tu dis « Ok, ça dégage. » C'est un truc qui est ultra pratique quand on rentre de vacances et qu'on a oublié de virer l'option, tout bêtement, hein. Je dis ça, mais ça, moi, ça m'est jamais arrivé, hein, parce que je fais hyper gaffe. du coup, je me suis dit, tiens, si c'est arrivé à des professionnel de la profession. Ça peut arriver à d'autres. C'est un truc qui existe depuis 2014. On pensait que la PS4 allait mourir de sa belle mort, mais en fait, cette version 2.0 est sortie un petit peu de nulle part, ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'avant, ça permettait surtout de trier tout ce qui était screenshot et compagnie. Mmh. Et puis bah là, dans les fonctions, vous trouverez aussi la possibilité de trier les panoramas, les vidéos, etc., qui vous permettent du coup d'avoir directement un œil sur les trucs qui serviront peut-être pas forcément, hein. Ces super panoramas que vous avez fait et que vous pensiez être extraordinairement beaux, qui finalement méritent juste la poubelle. Donc voilà, je vous laisse regarder ça de plus près. Ça coûte 2€ et quelques avec la TVA française, c'est 2$ sur le store américain. Et si vous avez pas envie de faire le tri à la main de votre téléphone, c'est une bonne nouvelle.
Et on va terminer cette section apps avec des nouvelles de Roland. Roland, le constructeur de synthé japonais. On vous avait parlé déjà, je crois que c'est la semaine dernière, de Any Sounds Native Instruments qui avait lancé donc son système d'abonnement avec des loops et des samples dans le cloud que tu peux télécharger à l'envi tant que t'es abonné. Et ben Roland en fait est aussi passé au système d'abonnement. C'était un peu passé sous mon radar. Il s'y est mis depuis septembre dernier avec un service qui s'appelle donc Roland Cloud. Ils sont pas foulés non plus. Et l'idée c'est de vous proposer des instruments virtuels Roland directement dans le cloud, donc par abonnement, avec un abonnement qui coûte je crois $20 par mois, avec un mois d'essai gratuit. Vous pouvez avoir accès à des plugins, des instruments virtuels. Alors il y avait déjà le Jupiter 8, le Juno 106 et le D50 pour citer les plus célèbres de chez Roland. Et là ils ont fait une grosse annonce à l'occasion du NAMM 2018. Je sais pas si tu vois ce que c'est le NAMM.
Voilà, le gros salon de la musique.
Voilà, c'est le 3 des ICOS hein, qui se déroule en ce moment jusqu'au 28 au Anaheim Convention Center de Anaheim, donc en Californie. Donc ils ont frappé assez fort en annonçant donc deux nouvelles émulations pour le coup des machines assez mythiques, les deux boîtes à rythme TR-808 et TR-909. Alors Dieu sait que il y a des gens qui ont tenté de les recréer en instruments virtuels, qu'il y a des clones physiques même qui existent. Mais bon, voilà, là, on va avoir une adaptation officielle. Alors, ce sera pas des samples, hein, ce sera de vraies émulations, donc avec recréation des circuits de manière virtuelle, etc. Donc ça, c'est plutôt une grosse annonce, ce qui va faire plaisir à tous les gens qui sont mis à faire de la tech à l'ancienne, avec les bons vieux sons de 808 et de 909 qui sont inimitables. Hein. Les synthés seront dispo normalement en février, et on pourra donc y accéder via l'abonnement à Roland Cloud. Je vous linkerai donc le service sur le petit papier qui accompagne ce podcast. Je vous propose d'aller jeter un coup d'œil, hein, parce que c'est possible de le tester pendant un mois gratos. Donc, comme ça, vous pouvez vous faire votre idée, voir si les synthés valent la peine. Je vais faire ça d'ailleurs la semaine prochaine dès que j'aurai un peu de temps. Et on va parler culture. On va rester dans la musique avec 50 Cent.
Oui,
qu'est-ce qu'il a fait 50 Cent?
Alors on parle de 50 Cent dans Torréfaction.
On a parlé de Kanye déjà.
C'est vrai. C'est un truc que j'avais pas trop le classé et ça m'a fait marrer d'en parler. C'est pas vraiment de la culture, c'est juste une news rigolote. 50 Cent en fait vient de se faire $8 millions de bonus en retrouvant son mot de passe, en retrouvant un mot de passe. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce mot de passe? Et ben en fait, tout bêtement, monsieur avait donné la possibilité en 2014 d'acheter son album en bitcoins. Ça y est, vous avez compris. Hein. Mm-hmm. Il les a pas sortis en fait depuis 2014 et il vient de se rappeler que finalement il y avait peut-être un peu d'argent qui dormait.
Putain, les problèmes de riches quoi.
Et ben ouais, non mais c'est un truc de fou quand même.
Ah merde, j'avais 8 millions de dollars là, je suis con.
C'est ça. Donc là, le mec s'est dit, je vais peut-être les récupérer quand même. Et, dans l'histoire, il avait gagné à l'époque 460 000 dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 2014 de 700 bitcoins. Mm-hmm. En 2017, puisqu'apparemment c'était fin 2017, cette histoire, ça lui a rapporté plus de 8 millions de dollars, puisqu'on est passé d'un prix de 650 dollars. Bah non, t'imagines, 650 dollars le bitcoin à 11 000 dollars. Donc une petite plus-value pas dégueulasse. L'histoire ne dit pas s'il les avait vendus à 17 000 dollars au lieu de 11 000, combien il aurait gagné. Parce qu'a priori, là, il les a vendus depuis la chute un petit peu vertigineuse, puisque le bitcoin s'est cassé la gueule, mais enfin reste à un prix absolument incroyable. Donc ça m'a fait marrer et l'histoire a été vérifiée et moi j'aimerais bien savoir où était planqué le mot de passe parce que j'imagine pas 50 Cent avec One Password. Mais écoute, a priori il y avait un peu de thune à se faire si on tombait sur le login mot de passe qui va bien quoi.
Putain, 50 Cent. Eh ben écoute, hein, tant mieux pour lui on va dire.
Hein. Exactement.
On va finir ce Torréfaction avec une petite news série. On vous avait déjà parlé d'une série adaptée du film What We Do in the Shadows, donc ce film de Taika Waititi, le réalisateur de Thor Ragnarok qui a le vent en poupe depuis le carton du film. C'était une histoire de vampires reclus qui se prennent un peu la tête, et c'était tourné à la sous la forme d'un documentaire, un pseudo-documentaire. Il y avait déjà une première adaptation qui avait été planifiée, qui s'appelle Wellington Paranormal, qui est produite par la télévision néo-zélandaise et qui propose, elle, une sorte de parodie des X-Files en utilisant les deux personnages de flics qui sont dans le film et qui mènent l'enquête. Il y a un nouveau projet de série qui a vu le jour, hein, qui est relayé par The Hollywood Reporter, hein, qui est basé, lui, sur le cœur du film, donc à savoir les trois vampires, qui serait une sorte de reboot du film avec notamment Matt Berry. Alors Matt Berry, toi, ça va pas te parler, mais c'était un mec que les gens qui aiment bien les séries anglaises un peu barrées connaissent très très bien. Il était dans IT Crowd. Il était aussi dans Garth Marenghi, Dark Place, pour ceux qui connaissent, une série culte de, Channel 4, je crois.
Je connais au moins The IT Crowd, c'est
déjà voilà. On n'a pas plus d'infos sur le titre de la série pour le moment. On sait juste que Taika Waititi va réaliser le pilote et qu'il sera écrit par Jemaine Clement, qui était donc son acolyte sur le film. Il y a pour le moment qu'une commande de pilote, donc il faudra voir si le pilote convainc la chaîne. La chaîne, en l'occurrence, c'est FX. Et si ça plaît, donc il y aura une série qui sera commandée. Mais à mon avis, attendez pas ça avant la rentrée 2018, voire peut-être même carrément 2019. On n'a pas plus d'infos pour le moment. On vous en donnera dès qu'on en a. Et ben, c'est la fin de cette torréfaction. Pas de rente cette semaine parce qu'on est déjà à la bourre.
Non, le rente, c'est le travail, c'est pénible. Vivement la retraite à 25 ans.
On va dire ça. Et c'est la fin de ce 36e épisode de Torréfaction. On se retrouve la semaine prochaine à 9h pour un autre rendez-vous avec notre sélection de l'actu. D'ici là, bon week-end, on va retourner travailler. Et bon courage, Caf.
Bah écoute, bon courage, Pascal. Et le premier qui me dit bon week-end, je le tape.
Allez, ciao.
Ciao.
Un podcast signé Pascal. Pascal.com.
Est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre ? Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve ? Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt ? Les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta science, le nouveau podcast scientifique de Geekzone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et Fasquille aux commandes, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur geekzone.fr.